qui compte pour un acteur, c'est la personnalité. Ta présence.
Je vous répondrai non, ça serait de la bêtise.
Si tu veux être dans un de mes films, il faut que ça coule dans tes lèvres. Ok?
Ça peut couler, hein.
On en parle. Tout.
Allez, action!
Action, pourquoi faire?
Un lendemain de fête qui vient clôturer une année particulièrement difficile. Alors, pour ouvrir l'avenir 2022 en douceur, nous avons pensé à elle, à son talent, ses mélodies, son enthousiasme. Bonjour tout le monde et bonne, oui, bonne année et à vous Laurent.
Bonjour Christine, bienvenue à toutes et à tous. Bonne année à vous, aux auditeurs et au cinéma pour 2022.
Chanteuse, auteure, compositrice, interprète, Jeanne Chéral et cette réécoute pour réenchanter ce premier matin de l'année. Nous lui avions demandé de choisir ses chansons de cinéma préférées et elle arrivait pas mal d'actrices pour les incarner, de Delphine Seyrig à Björk. Sinon, le 31 janvier, Jeanne Chéral chantera, comme elle dit, sa déclaration d'amour au cinéma sous les ors du théâtre de la Porte Saint-Martin à Paris.
Chouette.
Enfin, les sorties de ce premier mercredi de l'année entre Les Enfants du Soleil et le tout nouveau film de Paul Schrader. C'est parti avec Jeanne Chéral au piano et rien que pour nous.
France Inter. On aura tout vu. Christine Masson et Laurent Delmas.
Bonjour.
Qu'est-ce que c'est bien, la musique live.
Ouais. Ouais, ouais, Sous le soleil, exactement, écrit par Serge Gainsbourg pour Anna Karina. C'est une réinterprétation et c'est une réappropriation aussi.
Ben, c'est une chanson dont je suis folle. Vraiment, ouais. je voue un culte à cette chanson. J'aime énormément l'interprétation d'Anna Karina, qui est comme ça, complètement lâchée et très sensuelle. Et c'est une chanson que j'avais pris un petit peu l'habitude de chanter de temps en temps en concert. Il y a quelques temps. Et ça me fait super plaisir de la rechanter, malgré l'heure un peu,
oui.
C'est un peu tôt pour chanter comme ça, pour envoyer, mais bon, tout s'est bien passé.
Anna Karina, merci. D'abord actrice et ensuite chanteuse, ouais. Sont deux métiers complètement compatibles.
Ah bah ouais, il y a énormément ouais, de chanteuses, actrices, d'actrices, chanteuses, c'est deux formes d'expression qui se nourrissent l'une l'autre, je pense.
Quand on dit, d'ailleurs, ce terme « interpréter une chanson », c'est vrai, c'est comme interpréter un rôle. Et d'ailleurs, dans vos premiers choix, cette actrice, cette très grande actrice, a une façon très particulière d'interpréter cette chanson, de compléter presque un rôle grâce à ça.
Ouais.
C'est Isabelle Huppert que vous avez choisie
dans Huit femmes.
Dans Huit femmes.
François Ozon,
dans laquelle elle interprète cette célibataire acariâtre, mais qui va du coup se révéler avec cette chanson écrite par Michel Berger pour François Hardy.
Message personnel.
Message personnel.
Mais si tu crois un jour que tu m'aimes, ne crois pas que tes souvenirs me gênent, et cours, cours jusqu'à perdre haleine, viens me retrouver. Si tu crois un jour que tu m'aimes, et si ce jour-là tu as de la peine à trouver où tous ces chemins te mènent, viens me retrouver. Si le dégoût de la vie vient en toi, si la paresse de la vie s'installe en toi, pense à moi, pense à moi.
Là, il faut écrire cette chorégraphie extraordinaire, Jeanne Chéral, juste avec ses mains.
Ouais. C'est vrai, le souvenir que j'ai de cette scène, que j'ai beaucoup regardée, même en dehors du film, c'est la totale maîtrise qu'elle a de ses larmes. C'est vraiment, ça me fout par terre. Enfin, on dirait presque qu'elle décide. C'est de la technique et en même temps, c'est énormément de chair de poule, de feeling, de sensations. Elle décide le moment où ses larmes vont couler. Vraiment, enfin, je suis très sensible aux actrices qui chantent. Je trouve qu'il y a toujours une.
Qu'est-ce qu'il y a de différent et de plus?
De plus, peut-être une naïveté, enfin un premier degré dans la voix. Enfin, une actrice qui chante, elle n'essaye pas, enfin, elle n'est pas dans la technique. Et c'est ça qui me touche dans la technique vocale.
Il y a un abandon, une forme d'abandon.
Ouais. Et c'est ça que je trouve hyper fort dans cette scène, c'est l'abandon total et en même temps la maîtrise technique de ces larmes. Enfin, vraiment, ça me sidère.
Plus une caméra qui la filme.
Ouais. Non,
mais c'est ça, hein, y a la pression du cinéma aussi.
C'est magique.
Bon, elle est habituée à Isabelle Huppert, certes, mais ça a dû être un sacré exercice pour elle aussi de faire ça.
Ouais, j'imagine. Ce film, faut vraiment le revoir.
Oui, Huit femmes, François Ozon. Une chanson raconte aussi une époque, une vérité sur la vie sentimentale des jeunes gens dans le Paris d'aujourd'hui. Et ce si bel exemple, les chansons d'amour de Christophe Honoré, 2007, un drame musical, gai et grave, sur l'amour, la perte et la culpabilité de vivre. Pourquoi ce moment-là et cette actrice-là, Chiara Mastroianni?
Oh bah, déjà, je suis hyper sensible aux idées de compagnonnage dans l'art, dans le spectacle, dans le cinéma. Enfin, je connais pas personnellement Christophe Honoré, mais j'ai l'impression qu'il y a eu peut-être une évidence entre lui et Alex Baupin au moment de ce film, au moment de ces. Enfin, il y a quand même une résonance entre les compos, et le scénario, et puis un compagnonnage aussi avec Chiara Mastroianni. Enfin, c'est une actrice que je trouve vraiment vraiment géniale, très très subtile. Enfin, j'adore la voir à l'écran. Enfin, vraiment, c'est quelqu'un qui est très nourrissant, je trouve, à regarder. Et dans cette chanson qui s'appelle Au parc, elle est toute simple et on la voit d'ailleurs dans la scène dans je sais plus où ça se passe, peut-être au Luxembourg, enfin c'est un parc, tout ce qu'il y a de plus parc, quoi.
C'est comme un petit plan
séquence, on la suit, puis après elle se penche sur un arbre.
Ouais, c'est ça.
On écoute, et avec un petit dialogue avant avec Louis Garrel.
Personne ne t'empêche de parler, Ismaël, au contraire. Hein. Les gens ont besoin de t'entendre. Les parents notamment, tu dois leur parler.
Leur parler pour leur dire quoi?
Bah, je sais pas, ce que tu vis.
Mais ça va, avec ça. Moi, c'est pas mes parents, j'ai déjà des parents, j'en ai pas besoin d'autres.
Tu penses qu'à toi. T'es vraiment ingrat. Égoïste.
Voilà, je suis inconséquent, je suis idiot. Et puis, je suis pédé, alors ça c'est.
C'est pas ce que j'ai dit. C'est dégueulasse de me faire passer pour la conne.
Même soleil d'hiver, même bruit de brindis, le bout des doigts glacés, le givre sur les grilles, même odeur d'humus, la terre qui se terre, tout y sera, tout y sera, à part toi, part de la pépinière, fin de semaine, encore. Encore une heure de jour et la nuit vient. Même température, le mercure à zéro. Même mélancolie faux, au portillon du zoo. Même parents pressés, leurs enfants en manteau. Tout y sera, tout y sera.
Oui, on l'a écouté jusqu'où vous
en
vous
entier,
avez vu,
c'est dingue. Hein.
Oui. Quand vous l'écoutez, les images du film vous reviennent, d'autres
oui,
images.
Nécessairement, c'est ça qui est fort avec les chansons de film, quoi. C'est qu'on est imprégné par le visuel, quoi. On est imprégné par le parc, le visage de Chiara, c'est son visage très pâle.
Cette mélancolie,
cette mélancolie qui est là. Ouais.
Un autre duo réalisateur-compositeur après Honoré Baupin, c'est Jacques Demy et Michel Legrand.
Ah, bah, évidemment.
Alors eux doublaient les acteurs pour les chansons, et à l'exception de Daniel Darieux, Laurent d'ailleurs,
ouais, qui
chantait. Ah, Daniel chante, elle a toujours chanté, donc même chez Le Grand Demy, elle chante.
Et on a découpé une femme en morceaux rue de la bienséance à deux pas du château.
Super. Et dans Faudane, donc...
C'est Monsieur Dutroux, l'assassin, ouais. Bien entendu.
Vous avez choisi donc Delphine Seyrig, la fameuse fée, la fée des lilas, mais Delphine Seyrig, pas doublée par la sœur de Michel Legrand,
Christiane Legrand,
mais...
Je sais qu'il existe une version dans laquelle elle interprète la chanson elle-même.
Et ben la voici. Et...
Ma chère enfant, ce serait une grande faute que d'épouser votre père. C'est très simple, il faut le décourager sans le contredire.
Mais je l'aime.
Je sais que vous l'aimez. Mais je vous l'ai déjà dit, vous confondez les amours.
Il me presse et je dois lui rendre réponse demain.
La situation mérite attention. Mon enfant, on n'épouse jamais ses parents. Vous aimez votre père, je comprends. Quelles que soient vos raisons, quels que soient pour lui vos sentiments, mon enfant, on n'épouse pas plus sa maman. On dit que traditionnellement, des questions de culture et de législature décidèrent en leur temps qu'on ne marie pas les filles avec leur papa. Un prince, une bergère peuvent bien s'accorder quelquefois, mais une fille et son père, c'est ma foi, un échec assuré, une progéniture altérée. Mon enfant, il vous faut oublier à présent ces fantasmes démoralisants, et vous rencontrerez un charmant va-nu-pied ou un prince mendiant. Mais de grâce, oubliez cet hymen insensé.
Jeanne Gérald, de grâce, oubliez cet hymen insensé, une chanson qui tombe affreusement bien en ce moment.
Ouais, c'est complètement fou. Enfin, elle a une portée universelle et. psychologiquement hyper forte, cette chanson. Enfin, je trouve ça dingue. La Fée des Lilas est en train d'expliquer à Podane pourquoi cette union est impossible. Ça dit quelque chose sur la fragilité d'un enfant. Enfin, sur le fait qu'un enfant, il n'est pas armé pour s'opposer au désir d'un adulte. Enfin, le père de Podane veut l'épouser et elle va pas y consentir. Elle va lui obéir, en fait. Et c'est vrai qu'on parle énormément d'inceste et de consentement en ce moment. Ouais. En confondant, enfin, moi, quand j'entends quelqu'un qui parle du consentement des mineurs, de l'éventuel consentement des mineurs, j'ai envie de hurler, quoi. C'est impossible de penser comme ça. Un enfant, il consent pas. Il obéit à la,
il fait
confiance. Voilà. Il fait confiance à l'adulte. Et je trouve que cette chanson, elle dit vraiment quelque chose de très fort là-dessus. Mmh. Podane, il faut lui expliquer pourquoi c'est pas possible.
Mmh. Et il faut le montrer, ce film.
Ah ouais, ouais, vraiment.
À des petites filles, des petits garçons, à tout le monde.
À des enfants. Enfin, c'est vraiment, c'est très important.
Et c'est Rig et cette voix magnifique, cette voix d'actrice et cette voix de chanteuse.
Mais complètement. Je voue un culte je suis une inconditionnelle de Delphine Seyrig. Je conseille juste de revoir peut-être le film, le documentaire qu'elle avait tourné dans les années 70, je pense. Sois belle et tais-toi, où elle interviewe plein d'actrices sur leur place dans le cinéma, sur leur place dans leur métier. Il y a une magnifique séquence avec Maria Schneider, justement. Et, enfin, justement, association d'idées, peut-être.
Qui était une femme super fragile, elle.
Bah, complètement. Ouais, sous emprise aussi.
Enfin, Elle est chanteuse et avait dans un premier temps d'ailleurs écrit la bande originale de ce film Dancer in the Dark de Lars von Trier à l'arrivée. Eh bien, il a insisté, il a eu raison pour que Björk incarne aussi le personnage principal de ce film. Donc, elle joue Selma, émigrée tchèque et mère célibataire, travaillant dans une usine de l'Amérique profonde. Elle trouve son salut dans sa passion pour la musique, spécialement les comédies musicales hollywoodiennes. Elle garde un lourd secret, elle perd la vue. Et son fils, Gene, connaîtra le même sort, sauf si elle réussit à mettre assez d'argent de côté. Ça, c'est un vrai pur mélo. Quand un voisin aux abois accuse à tort Selma d'avoir volé ses économies, le drame de sa vie s'intensifie. Elle termine en prison et vous avez choisi pratiquement, Jeanne Gérald, la dernière chanson du film quand elle est envoyée à la pendaison.
Oui, c'est... c'est gay. Mais... Oui, Björk, bon, c'est une déesse déjà. Enfin voilà, c'est complètement fou de la voir dans ce film. Et j'ai revu cette séquence hier soir justement en me disant qu'on allait en parler. J'avais envie de me la remettre en tête. C'est une séquence où il faut qu'elle fasse le trajet. Ouais. Donc c'est 107 steps, 107 pas, où il faut qu'elle fasse les 107 pas qui la séparent de son échafaud. Et ce qui est incroyable, c'est que la scène devient onirique. Enfin, au début, c'est insoutenable, franchement. Et plus elle marche, on entend
sa gardienne
qui compte les pas. Et en fait, ça devient onirique. Elle passe de bras en bras avec ses co-détenus, les gardiens. Enfin, il y a.
Oui, elle entre dans les cellules.
Ça devient fantastique.
13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27.
Elle joue une scène absolument dramatique en chantant. C'est une performance folle, là.
Ouais, une performance, une émotion. C'est complètement fou. C'est dingue, d'ailleurs, à quel point Lars von Trier, souvent, met ses héroïnes au fond du trou.
Ouais, là, vous allez c'est beaucoup reproché, d'ailleurs.
Elle a longtemps quitté le plateau. Il y a même des masques à son effigie qui ont été faits pour les mettre sur une autre actrice. Longtemps, Lars von Trier a pensé qu'elle ne reviendrait pas. Oui, c'est un tournage.
Non, parce qu'en fait, ce sont deux égos artistiques énormes de contrôle. Le fric presque, lui, sur son cinéma et elle sur sa musique. Ça crée forcément des grands chocs.
Des tensions.
Ah, mais le résultat est tellement fou.
Et d'ailleurs, elle a eu le prix d'interprétation à Cannes.
Mais oui.
Et le film a eu la Palme d'Or.
Ouais, et il faut réécouter aussi Selma Songs, la bande originale.
Ouais, qui toute la BO du film.
Qui est assez courte, mais qui est dense et qui est très, très émouvante et très belle.
Très bel album.
Le playback au cinéma, Jeanne Gérald, dans un film, on connaît la chanson de René, qui a confié le scénario à ce duo, donc Agnès Jaoui, Jean Jean-Pierre Bacri, l'histoire de six personnages engagés dans un jeu de pistes sentimentales avec Paris pour décor, encore une fois, deux femmes, quatre hommes sans possibilité, et l'illusion sous toutes ses formes. Donc un film effectivement bâti sur les apparences, où donc chaque acteur va jouer en playback une chanson super connue, et vous avez choisi Téléphone par rapport au personnage d'Agnès Jaoui. On écoute et on en parle après.
Yes.
Toujours à faire croire à tout le monde que je maîtrise tout et que tout va bien.
Pourquoi tu veux toujours faire croire à tout le monde que tu maîtrises tout et que tout va bien ?
Là, pour le coup, c'est raté.
Camille, si tu veux que je te donne mon opinion, moi, je te préfère comme ça. Hein. Ça, c'est vraiment toi.
Jeanne Chéral, une chanteuse qui aime le playback, alors. Non, qu'est-ce que vous aimez dans cette performance? Vous voyez, cette idée d'imbriquer le scénario, de le faire correspondre à ses chansons, lesquelles sont chantées en playback par les acteurs.
C'est difficile à expliquer, c'est pas rationnel, mais moi, bon, j'ai revu, on connaît la chanson pendant ma rétrospective, tout le monde a dû se faire une rétrospective Jean-Pierre Bacri, là.
Oui.
Alors, hormis l'émotion de la mort de Jean-Pierre Bacri, moi je n'arrêtais pas de pleurer en regardant On connaît la chanson, mais le fait de voir des acteurs chanter, moi ça m'émeut, ça me bouleverse. Alors il y a un truc de, je me dis, ils ont fait l'effort, c'est con de dire ça, mais ils ont fait l'effort d'apprendre la chanson. Enfin, vraiment, ça, je suis complètement ébahie devant un acteur qui chante, et puis cet exercice de playback, c'est pas rationnel, hein. Mais je suis très sensible aussi quand le fantastique ou le surréaliste s'insère dans quelque chose de très réaliste. Là, voilà, oui. On a une soirée un peu bourgeoise dans cet appartement incroyable, et d'un coup, tout le monde se réunit dans une grande chorale pour remonter le moral du personnage d'Agnès Jaoui. C'est complètement... Enfin, c'est fantastique,
oui,
quoi.
Et, ouais.
Ça m'émeut beaucoup.
Puis quelle valorisation de la chanson, c'est quand même dire qu'une chanson, ça peut remplacer un long développement, un long dialogue, une longue situation.
Ouais.
Donc ça, c'est quand même extraordinaire.
Ah ouais, ouais, le pouvoir de
oui.
2 minutes 30
voilà.
De chanson. Quoi, c'est... Non, mais c'est vraiment un chef-d'œuvre, ce film. Hein. Franchement.
Merci d'avoir choisi le suivant. Alors là, R de Milos Forman. Vraiment, merci Jeanne Chéral. Qui était une comédie musicale, donc, qui est devenue ce film, qui avait d'ailleurs ouvert Cannes en 79. Pourquoi un jeune homme de 20 ans doit-il aller se faire tuer à l'autre bout du monde, alors qu'il pourrait vivre sa vie paisiblement avec ses amis hippies,
ouais.
Se droguer, être amoureux, faire la fête, etc. Vous l'avez découvert vers quel âge, ce film? À l'adolescence ou plus tard?
Un peu plus tard, dans ma vingtaine, je pense. Oui, ça m'avait marqué. Enfin, cette impression tout au long du film d'une époque perdue, en plus.
Oui.
D'une...
Qui était déjà perdue presque quand il a tourné le film en 79.
Ah, hein, ouais,
qui était déjà
oui.
Après.
Oui, ça se passe
qui était post-hippie. Vous avez choisi un morceau complètement bouleversant, puisque c'est la fin du film avec le sacrifice d'un garçon pour un autre. D'ailleurs, un élément qui n'était pas dans la comédie musicale et que Forman a ajouté. L'un part donc au Vietnam à la place de l'autre. On écoute et on en reparle. C'est trop beau.
Campo, yes sir. Sumner, yes sir. Peterson, yes sir. Bukowski. Bukowski! You better get your head out of your ass! Let's go!
We saw them look at one another, short of breath, walking proudly in our winter coats, wearing smells from laboratories, facing a dying nation of moving paper fantasies, listening for the new told lies with supreme visions of lonely tears.
Somewhere inside something there is a rush of greatness. Who knows what stands in front of our lives? I fashion my future on films in space, silent
Et c'est la reprise que je préfère, Manchester. On pleure en voyant.
Oh là là. Ouais, et puis là, ces images de donc George Berger, le personnage oui. principal, qui est tellement exubérant.
Treat Williams.
Treat Williams, exactement, qui est tellement sensuel et beau. Qui se fait raser, qui est sous son casque, qui avance avec le désespoir qui se lit sur son visage, qui avance vers la mort, quoi.
Et vraiment, John Savage, qui l'a remplacé, lui, essaie de le retrouver en voiture, il est allé à un pique-nique parce que l'autre lui a offert de retrouver sa fiancée pour un pique-nique et il revient, il arrive trop tard.
C'est vraiment bouleversant. Voilà.
Elle tombe bien cette chanson en ce moment, non?
Ça fait un bien fou d'entendre
mais
ça.
Mais oui.
La tentation de la comédie musicale, ça pourrait être quelque chose qui pourrait vous séduire, d'écrire une comédie musicale?
Oh ouais, bien sûr. Ouais.
C'est vendu.
Non, j'ai jamais eu l'occasion de passer à l'écriture de. Mais effectivement, ça doit être un exercice génial.
Ou le biopic d'un chanteur au cinéma, par exemple, Claude François incarné par. Non, mais il est trop incroyable. La ressemblance est trop folle. Jérémy Régnier dans Clo-Clo de Florent Emilio Siri. Destin tragique, chanteur adulé, businessman, bête de scène, produit marketing. C'est pas non plus un film qui élude les facettes antipathiques de Claude François.
Non, c'est pour ça que c'est un bon film, montre, un bon documentaire.
Mais oui, maniaque, mégalo, misogyne, colérique, odieux.
On peut le dire.
Odieux, n'est-ce pas? Et vous avez choisi une super jolie scène. C'est bon, on sait qu'il a écrit comme d'habitude et que Sinatra l'a repris. Mais dans cette scène, on lui apporte tout d'un coup le 45 tours de My Way.
Ouais.
Il va l'écouter et on va le commenter parce que c'est très très beau ce qui se passe pendant cette chanson. Donc là, il est dans sa chambre d'hôtel.
Avec Paul Lederman.
Oui.
Qui lui pose la main sur l'épaule.
Qui est joué par Benoît Magimel. My friend, I'll say it clear. I'll state my case. Et tout d'un coup, le mur de l'hôtel s'ouvre sur le jardin de l'enfance de Claude François en Égypte. Et là, il va dans le verger et près des orangers. Touche une orange. On voit la maison de loin, superbe maison. Et là, il va retrouver son père.
Son père jeune, son père qui n'a jamais supporté qu'il fasse une carrière dans la musique. Et là,
tu reconnais. The Voice. Sinatra. C'est Frank Sinatra, papa. Il chante ma chanson. Sinatra. Sinatra, mon sang. Après, il se passe quelque chose de très beau, Jeanne Chéral. Il va rejoindre la scène au ralenti, vous l'avez bien précisé, effectivement, en revoyant. Il boit un verre, il s'échauffe, il saute. En fait, c'est tout ce qui se passe avant la scène et qui a dû vous émouvoir incroyablement.
Ah non, mais je l'ai beaucoup vu, ce film, parce qu'en plus, il y a beaucoup d'enfants dans mon entourage qui en sont fous. Donc, je l'ai pas mal vu. Et cette scène, mais je pleure à chaque fois.
Oui.
Il est en coulisses avec, donc c'était Tiki Olgado, l'acteur qui joue Tiki Olgado, son homme de main, quoi.
Oui.
Et il s'échauffe comme un athlète, quoi. Il
Exactement.
Court avant d'entrer en
scène.
Il saute et il rentre sur le ring. Tout ça est au ralenti. On voit ses choristes qui le regardent avec, les avec Claudettes. Attention et ouais, ouais. Qui sont dévoués. Et ouais,
mais quand on est chanteuse comme vous, ça doit être dingo de voir ça. Et tout d'un coup, le rideau s'ouvre et le public l'acclame.
Ah ouais, ouais, c'est vraiment ouais, c'est une grosse grosse émotion cette scène. Pourtant, on peut pas dire que je sois fan de Claude François, bien au contraire, bref. Mais vraiment, déjà la performance de Jérémy Régnier, enfin, il est génial hein, dans ce film, il est extraordinaire.
Et vous avez repris Claude François, une petite larme m'a trahi.
Ah oui,
mais
c'est
oui,
vrai.
Hein, dans
ah
la...
oui,
bah,
effectivement.
Dans la compile, l'hommage à Claude François, autrement dit.
Ouais, c'est vrai.
Oh, puis cette chanson-là, mais ouais, c'est quand même.
Ah bah ouais, mais ouais, vraiment, ce film est très réussi, je trouve.
Ouais. On va terminer par Les Woods dans une comédie musicale qui s'appelle Tommy, qui est dirigée par Ken Russell. C'est un opéra rock complètement dingue.
Complètement foutraque.
Complètement foutraque. Merci beaucoup, je l'ai vu hier. Merci Jeanne Chéral.
Mais bravo de l'avoir vu, parce que moi je ne l'ai même pas vu, je n'ai pas eu le courage.
C'était une petite épreuve par moment, mais bon. Et puis il y a ce...
Ça existe, hein, les films qui existent par leur BO et par voir le film lui-même.
Disons que là, la bande originale est sortie plusieurs années avant le film. Ouais, c'est devenu un film, mais au départ c'est un opéra rock, vraiment c'est un double album.
Non, mais il y a des trucs géniaux dedans.
Il faut écouter.
Alors il y a Elton John qui joue sur des Doc Martens géantes. Une chanson qui s'appelle Pinball Wizard, qui ça veut dire le magicien du flipper, mais vous avez choisi bien sûr la version Roger Daltrey des Who. Ever since I was a young boy, I played the silver ball. From Soho down to Brighton, I must have played them all. But I ain't seen nothing like him in any amusement hall. That deaf dumb and blind kid sure plays a mean pinball. He stands like a statue, becomes part of the machine. Feeling all the bumpers, always playing clean. Plays by intuition, the digit counts as ball. Sinon, le 31 janvier, Jeanne Chéral chantera, comme elle dit, sa déclaration d'amour au cinéma au Théâtre de la Porte Saint-Martin à Paris. En piano-voix, la bande originale de son cœur avec du Piensa Ennemi et du Jésus revient, entre autres. Avant de se retrouver pour les sorties, Laurent Parcells, Something's Better. We'll be right back.
sorties de la semaine, Laurent. On va commencer par un grand film signé Paul Schrader, The Card Counter. Mutique et solitaire, William Tell, ancien militaire, devenu joueur de poker, sillonne les casinos fuyant un passé qui le hante. Il croise alors la route de Cirque, jeune homme instable, obsédé par l'idée de se venger d'un haut gradé avec qui Tell a eu autrefois des démêlés. Alors qu'il prépare un tournoi décisif, Tell prend Cirque sous son aile, bien décidé à le détourner des chemins de la violence. L'histoire d'une quête de rédemption impossible et un terrible voyage au cœur de la cruauté, celle de personnages voués à la tragédie. Entre chambre de motel et casino sordide, au milieu, cet acteur extraordinaire, Oscar Isaac, économie de gestes, de paroles, dans une mise en scène sans esbrouve qui rappelle dans son atmosphère celle des meilleurs films des années 70, Laurent.
Mais oui, d'ailleurs, comment oublier que Paul Schrader, c'est le scénario de Taxi Driver, entre autres de Martin Scorsese. On y pense beaucoup dans le portrait de cet individu en quête de pureté, hein, évidemment. Donc il y a une vraie filiation, vous le disiez, c'est tout à fait exact, avec un acteur en majesté, comme dans les films de Scorsese, aussi, bien évidemment. Et puis, à quoi on reconnaît un cinéaste? Ben, peut-être aussi à ses obsessions. Et moi, j'ai vu une obsession des mains dans ce film incroyable. Les mains des joueurs de cartes, mais aussi en miroir négatif, les mains des bourreaux. Et puis, peut-être en positif final, les mains des amants. Ça, c'est extraordinaire, cette façon de suivre un film narratif à travers ce qui sera en peinture un gros plan, et ce qui est en cinéma un gros plan. Je trouve ça très très beau, et oui, c'est, alors là, l'année commence bien, on va dire, avec ce film de Paul Schrader.
Et cette idée de se rendre invisible dans chaque motel, sans dire par quel moyen.
Absolument.
Nos plus belles années, de Gabriele Muccino. Alors, à ne pas confondre avec le film de Sidney Pollack, le même titre en français. À ne pas confondre non plus avec Nos meilleures années, grand triptyque italien lui aussi, de Marco Tullio Giordana. Ça, c'est l'histoire de quatre amis racontés sur 40 ans en Italie, des années 80 à aujourd'hui, la chronique de leurs espoirs, de leurs désillusions, de leurs amours et surtout de leur amitié inspirée d'un autre grand film. Nous nous sommes tant aimés, les Torres Scola.
Ben oui, il faut vraiment le confondre avec rien, ce film, sous peine de faire du mal aux autres. Hein. C'est évident, parce qu'il y a non seulement Scola, mais il se donne, pourquoi pas, allons-y gaiement, il y a aussi quelques références au Roma de Fellini. S'il vous plaît, c'est quand même pas rien. On est un peu stupéfait, d'ailleurs, de tant de références pour si peu de résultats, avec un effet de vraie fausse comédie romantique, bourrée de stéréotypes. Ah, que les amours étaient belles quand elles commencent. Ah, que l'adolescence était merveilleuse à l'époque. C'est plein d'une nostalgie factice. C'est effectivement avec des filiations qu'on a nous tant aimé aussi, bien sûr. Mais c'est proche, à mon sens, d'une espèce de racolage sentimentalo-nostalgique qui est vraiment pas ni très intéressant à suivre et qui, au contraire, génère un ennui mortel.
Ce qui était extrêmement bien traité, effectivement, dans le film de Marco Tullio Giordana, revoir ce film qui existe en DVD, qui est absolument extraordinaire, Nos meilleures années. Pardon de profiter de ce film-là pour en parler, d'un autre.
Il vaut mieux.
Voici le premier film de l'Islandais Valdimar Johansson, s'appelle Lamb. Maria et Ingvar vivent reclus avec leur troupeau de moutons dans une ferme en Islande. Lorsqu'ils découvrent un mystérieux nouveau-né, ils décident de le garder et de l'élever comme leur enfant. Une histoire basée sur des contes populaires. Le début de Lamb est très intriguant, dommage que par la suite un nouveau personnage vienne transformer et même dévier l'intrigue qui perd alors tout son souffle. Là.
Oui, alors on dit pas, malgré le titre du film, enfin bon, chacun fera son idée, mais enfin la brebis n'est pas loin. On avait déjà eu Ozon avec un petit enfant qui avait des ailes, bon, cette fois c'est autre chose, c'est quatre pattes. Non, franchement, c'est assez ridicule parce qu'il y a quand même une volonté chez l'auteur-réalisateur de parler de la vie, de la mort, du deuil, de l'amour maternel, etc. Donc c'est quand même pas des questions anodines, et tout ça est fait avec une lourdeur démonstrative, avec des images qui pèsent des tonnes, certes dans des sublimes paysages, et alors ne parlons surtout pas, pour ne rien divulgâcher, de la fin, mais alors ça vire au grand guignol et au grand grotesque, hélas. Non, c'est vraiment dommage, il y a éventuellement un propos, mais il n'est pas tenu, du tout.
Et une grande interprétation de Noomi Rapace.
C'est vrai.
Un beau retour. Next Door, c'est un film réalisé par un acteur, Daniel Brühl, dans lequel il joue, d'ailleurs, à Berlin,
un acteur célèbre qui vit dans un bel appartement avec sa charmante compagne, leurs deux enfants et la nounou. Il s'apprête à décoller pour Londres où l'attend le casting d'un film de super-héros. En attendant son chauffeur, Daniel se rend au bar du coin sans savoir qu'il est suivi par son mystérieux voisin Bruno. Une rencontre préméditée qui va emmener Daniel vers les recoins sombres de son intimité. Que vaut ce film d'acteur ?
Alors, ouais, c'est ça, c'est un film d'acteur. Alors, donnons acte à Daniel Brühl de faire quelque chose qui n'est pas facile, d'autant plus qu'il charge encore plus sa barque en jouant lui-même un acteur. C'est-à-dire qu'il y a évidemment un effet de miroir, évidemment qu'il nous parle de lui-même, alors en essayant d'être le plus en retrait possible, enfin en retrait de lui-même, en surplomb de lui-même, donc mais finalement c'est relativement complaisant par rapport à sa carrière. Il y a des sortes d'autocitations qui laissent un assez grand malaise. On aurait préféré qu'il s'écarte de son propre parcours, de sa propre carrière. C'est pas un film sur le paradoxe du comédien, c'est juste un film sur effectivement un personnage qui rencontre un voisin inquisiteur et qui va essayer de savoir ce que c'est sur lui son voisin inquisiteur. La mise en scène est d'une platitude abyssale et le pire du pire, c'est qu'effectivement, et ben cet acteur qu'on aime bien, il faut le dire, hein, qui a fait de Goodbye Lenin, enfin qui a fait des choses tout à fait intéressantes, le jeune Marx par exemple, etc. Ben il ne tire rien de lui-même, c'est-à-dire qu'on n'a aucun plaisir à le voir jouer, on n'a pas un grand jeu déployé d'acteurs, c'est très dommage.
Les Enfants du Soleil de Majid Majidi à Téhéran. Ali, 12 ans, et ses amis enfants des rues sont embauchés par un criminel dangereux pour trouver un trésor enfoui caché à proximité d'une école. Pour y accéder, les enfants doivent s'inscrire à cette école et grâce à l'éducation, ils commencent à découvrir un trésor différent, un avenir, un avenir peut-être différent. Ce sont de vrais enfants des rues engagés par le réalisateur, d'où l'authenticité de leur interprétation. Un nouveau néo-réalisme, 70 ans après Le voleur de bicyclettes, c'est une sacrée référence. Et un film rend à montrer à tous les enfants.
Oui, c'est vrai. Alors, il faut dire que c'est le film que l'Iran va envoyer aux Oscars, oui, 2021. Donc, bon, c'est, alors que c'est un film qui ne mâche pas ses mots ou ses images sur l'Iran, hein, faut le dire quand même. On est étonné en ce moment. Qu'est-ce qu'on se régale de voir des films iraniens, Razoulov, Faradi. Enfin, vraiment, on a comme ça des tas de propositions différentes. D'ailleurs, celle-là l'est, hein, par rapport au cinéaste que je viens de citer. Et c'est effectivement, on songe, vous le disiez à un film, on peut changer à Buñuel aussi, ouais, dans Los Olvidados. Enfin, vraiment, il y a une volonté de s'inscrire dans le réel et dans le réel dur, dans le réel qui cogne, dans le réel qui fait mal, qui est très très belle avec cette espèce de discours sur l'impuissance et l'amertume des choses. C'est très très beau, vraiment.
Avec un magnifique acteur pour jouer un,
oui,
professeur.
C'est vrai.
Belle, c'est un film d'animation de Mamoru Hosoda. Dans la vie réelle, Suzu est une adolescente complexée, coincée dans sa petite ville de montagne avec son père, mais dans le monde virtuel de U, Suzu devient Belle, une icône musicale suivie par plus de 5 milliards de followers. Une double vie difficile pour la timide Suzu qui va prendre une envolée inattendue lorsque Belle rencontre la bête, une créature aussi fascinante qu'effrayante.
Oui, absolument. Alors Hosoda, ben c'est l'après Ghibli et l'après Miyazaki du cinéma d'animation japonais. Et on peut dire qu'on est gâté parce que c'est plein de belles choses. Il y avait eu Mirai notamment auparavant, Mirai ma petite sœur qui était formidable. Alors c'est d'après lointainement le roman de Jeanne-Marie le prince de Beaumont, j'adore ce nom. Donc La Belle et la Bête, c'est évidemment, il y a des tas de référence à Cocteau et Disney, parce qu'on ne peut pas refaire La Belle et la Bête sans référence à Cocteau et Disney, mais ce n'est pas du tout lourd. Et ce qui est très intéressant, c'est qu'il y a d'une part cet univers virtuel, évidemment en image de synthèse, et d'autre part, vous le disiez, cette vraie vie de cette jeune fille qui, elle, est en dessin animé traditionnel. Hein. Donc il y a ces deux formes que le Hosoda manie avec magnificence. L'univers virtuel, il est aussi toc que extraordinaire à voir, et avec une sorte de morale qui est tout à fait intéressante, qui n'est pas du tout poser l'un à l'autre, mais de dire que c'est précisément par une sorte d'avatar dans cet univers virtuel incroyable que malgré tout, la jeune fille va se réaliser, malgré tout, elle va traverser les miroirs et aller vers sa vraie vie. Donc c'est vraiment passionnant. On disait que le film précédent iranien est à voir avec des enfants, celui-là aussi, manifestement.
Il nous reste 30 secondes pour deux films. Bien sûr, rappeler Tromperie d'Arnaud,
oh oui,
du Péchin qu'on a,
mon Dieu,
déjà largement évoqué.
Ou combien.
Et la trilogie d'Apou, Laurent, La Complainte du Sentier, L'Invaincu, Le Monde d'Apou, de sa
Mais oui, tout à fait. L'ancien assistant de Renoir sur le fleuve, et puis inspiré aussi de Dickens avec un mélange de lyrisme et de réalisme proprement incroyable. Il faut voir et revoir la trilogie d'Apou.
Et maintenant, un merci à notre belle équipe.
À la réalisation, merci. Lauren Thomas et David Leprince, Christophe Magère, à la préparation et Thierry Dupin pour la programmation musicale. Encore, merci, un grand merci à Jeanne Chéral. Au revoir.
Belle année.
Merci Théo Gomard d'avoir été aux manettes aujourd'hui. Dans quelques minutes, Pop & Co, Rebecca Manzoni avec Nancy Sinatra et Lee Hazelwood.